pense que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous suivez un peu les actualités du monde, de notre pays. Je pense que vous faites la même conclusion que moi, que ce monde-là marche un peu sur la tête, non? Peut-être qu'il a toujours marché sur la tête. Et pourtant, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Et un autre verset dans les psaumes, à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. On n'a pas toujours l'impression. Et pourtant, l'Éternel est Dieu et il règne sur ce monde qu'il a créé. Mais s'il règne sur ce monde, est-ce que nos petites affaires personnelles l'intéressent? Dieu s'occupe-t-il de mes petites affaires? Et on va lire ensemble le psaume 73, psaume d'Asaph. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? » Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Vous ne trouvez pas que ce psaume qui a été écrit il y a bientôt 3000 ans est toujours d'actualité? L'homme n'a pas bien changé. Est-ce que Dieu s'occupe de mes petites affaires? Ce sujet que je veux aborder ce matin, je pense qu'il préoccupe beaucoup d'entre nous. Et c'est évidemment un sujet qui n'est pas très facile. Et la première difficulté consiste à vraiment le formuler. Et je vais le faire sous forme de question. Dieu s'occupe-t-il des détails de ma vie? Par conséquent, les choix que je fais ont-ils de l'importance à ses yeux? Et inversement, mon engagement dans le monde, que ce soit par des actes ou par la prière, a-t-il de l'importance? Ma prière a-t-elle du sens quand je demande par exemple la paix pour Jérusalem? Que signifie la prière pour l'Église persécutée? Et face à ces réalités, quelle place peut avoir une prière concernant mon travail, ma santé, mon bonheur? Une autre difficulté, c'est que toute la Bible, plus ou moins, parle de cette question. Et les textes que j'ai choisis sont insuffisants et pourtant ils sont riches. Et vraiment, je me sens un peu comme Asaph quand il disait « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux. » Pour essayer d'étudier cette question et d'y répondre, j'ai essayé de suivre le chemin d'Asaph. Les questions « Dieu ne s'occupe-t-il que des grands sujets qui concernent l'avenir d'Israël ou de la planète ?» Est-il indifférent aux circonstances et aux engagements qui font notre vie quotidienne? Et ces questions n'ont pas de réponse évidente. La réponse, elle est peut-être pas directement où on la pense, elle est peut-être ailleurs, dans une autre question. Qui est Dieu? Qui est le Dieu en qui nous croyons? Quelle relation propose-t-il avec lui? Et quelle relation avons-nous avec lui? Asaph a pu poindre la lumière quand il s'est approché du sanctuaire. C'est là qu'il a commencé à comprendre. Et toutes nos questions trouvent une réponse, si ce n'est pas une réponse, au moins un apaisement quand nous rencontrons Dieu. Ce psaume que nous avons lu raconte la peine d'un croyant fidèle qui ne comprend pas pourquoi il est persécuté, malheureux, quand les méchants réussissent. Cette question du juste souffrant, l'Église de tous les temps, et en particulier certainement l'Église persécutée, se la pose. Jusque à quand, Seigneur? Asaph, quand il réfléchit, il se dit comment interpréter l'échec, l'injustice, comment vivre la déception. S'est-il trompé? A-t-il fait fausse route? Les méchants ont-ils raison quand ils disent que Dieu ne voit rien? Qu'il ne s'occupe pas de nos petites affaires? Et derrière les mots d'Asaph, on peut facilement mettre nos questions d'aujourd'hui. Questions qui ne naissent pas toujours de l'échec, mais qui naissent aussi de l'ignorance. Quel métier dois-je faire? Dois-je me marier et avec qui? Dois-je m'engager dans la chorale ou ailleurs? Asaph, me semble-t-il, pose trois repères liés au passé, au présent et à l'avenir. Le passé, c'est la fidélité de Dieu, la fidélité à son conseil, à la famille de ses enfants, nous pourrions dire à la loi, à la parole révélée. Le présent, c'est la communion avec Dieu, la communion qu'il exprime par ses paroles « Je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Et l'avenir, c'est le recul qui permet de ne pas juger la réussite à des succès immédiats, des succès qui ne sont peut-être qu'apparents. Dieu ne se désintéresse pas de notre quotidien. Il a parlé pour diriger notre vie dans ces domaines. Il y a suffisamment de clarté dans la Bible pour que notre chemin soit bien balisé. Inutile de lui poser des questions auxquelles il a déjà répondu. Nous sommes des êtres doués de raison. Il faut s'en servir. Dans l'orientation de nos vies, ne laissons pas des convictions et des inspirations douteuses nous égarer quand des réponses claires ont déjà été données. Parfois, nous cherchons des signes, peut-être pour éviter d'obéir. Si vous, madame, avez la conviction de devoir quitter vos vieux maris malades pour ce jeune cadre dynamique qui vous drague, êtes-vous sûr que c'est par l'Esprit Saint que vous êtes inspiré? Vous, monsieur, qui avez la conviction de devoir quitter femme et enfant pour votre secrétaire jeune et belle, êtes-vous sûr que c'est Dieu qui vous donne cette pensée? Dieu a pris la peine de baliser notre chemin dans la parole qu'il nous a adressée. Et souvent, très souvent, les balises sont suffisamment claires et explicites. Alors ne les trahissons pas. Évidemment, il y a un certain nombre de réponses qui ne sont pas révélées. Dieu veut-il que j'épouse Berthe ou Marthe? Je ne suis pas en plus tout à fait certain qu'il ait vraiment un avis sur la question, ou tout au moins qu'il veuille me l'exposer. Il ne me l'a pas révélé dans la Bible, mais il me donne des indications, des critères de choix. Et il me laisse exercer mon libre arbitre. Dieu m'appelle-t-il à son service à plein temps? Dois-je accepter tel travail ou tel autre? Là encore, de bons principes, une bonne réflexion personnelle et peut-être communautaire nous éviteront d'inutiles incertitudes. Le salut, nous est-il dit, est dans le grand nombre de conseillers. Mais bien sûr, souvent, très souvent, journellement, il faudra choisir entre plusieurs bonnes possibilités. On parle souvent de portes ouvertes ou fermées. Portes que nous pouvons aussi bien forcer que négliger d'ouvrir et que nous regrettons souvent d'avoir ouvertes. La facilité est-elle la confirmation de la bonne route et les difficultés, la preuve du mauvais chemin? Je ne pense pas. La preuve en est l'Église persécutée, la vie de Paul, sans parler de celle de Jésus. Quand les choix sont difficiles, la communion avec Dieu et la communion avec les frères sont déterminants pour notre orientation. Notre Père ne choisit pas notre place. C'est dans sa communion que nous sommes appelés à nous décider, à persévérer. Il nous a dotés de réflexion, il nous a dotés d'intelligence, il nous dit même qu'il a renouvelé notre intelligence, c'est pour que nous nous en servions. Et puis Asaph, il finit par l'avenir, l'espérance. Asaph a compris que tout n'était pas réglé ici-bas. En ce jour des défunts, parce que je crois que c'est le jour des défunts aujourd'hui, hein, de novembre, il vaut la peine de se demander si nos choix tiennent au regard de l'éternité. Asaph, après un moment de flottement, d'égarement peut-être, a compris qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi de sa vie à cause de Dieu, de son rocher. S'approcher de Dieu, c'est son bien. Nous approcher de Dieu, c'est notre vie. En nous approchant de Dieu, nous comprenons que Dieu n'est pas un lointain mécanicien de l'univers, ni un super gestionnaire du monde. Il est quelqu'un qui nous parle, qui nous aime, qui nous accompagne, comme un père peut le faire avec ses enfants. Mais un père ne décide pas tout pour ses enfants. S'il veut les voir grandir, il leur laisse les décisions qui leur reviennent, qu'ils peuvent prendre, mais il les enseigne, il balise leur chemin, il les conseille, mais les décisions reviennent aux enfants. Alors en parlant d'avenir et du devenir des justes et des méchants, comme l'évoque Asaph, je vous propose de lire un texte dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 18, au chapitre 12, à partir du verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'héritier. Le second prit la veuve pour femme, mourut sans laisser d'héritier. Il en fut du même pour troisième, et aucun des sept ne laissa d'héritier. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux se rappelle la femme, car les sept n'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection des morts, ni les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes gravement dans l'erreur. Or, pourquoi maintenant évoquer cette question des Sadducéens sur la résurrection ? Que nous apprend cette histoire concernant notre sujet de ce matin ? Alors, à des gens qui se fondaient sur la Bible, Jésus dit « Vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Ce qui est paradoxal, c'est que les Sadducéens étaient, eux, convaincus qu'ils étaient les plus fidèles aux Écritures. Ils étaient les évangéliques de leur temps. Leur position était simple, il n'est pas question de la résurrection dans les Écritures. Pour eux, les Écritures, c'est l'Ancien Testament, ils n'ont rien d'autre. Ce qui est vrai. Ils en déduisaient donc qu'il n'y avait pas de résurrection. Et en plus, ils avaient trouvé une démonstration qu'ils trouvaient amusante. Or, Jésus, ça n'amuse pas. Il se désole même que ces hommes fassent de la Bible un texte figé, une lettre morte. C'est pourquoi il les renvoie à une évidence. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'est le Dieu vivant et le Dieu des vivants. Pour toutes les questions qui nous préoccupent, prenons-nous comme référence un texte à étudier, à analyser, à disséquer, ou bien notre référence, c'est le Dieu à rencontrer. Évidemment, on rencontre aussi Dieu dans les textes. Mais attention, attention à ne pas nous emparer des textes pour en faire un savoir sans Dieu, un savoir intellectuel, un savoir stérile. Une connaissance, comme disait Paul aux Corinthiens, une connaissance qui enfle, alors que seul l'amour édifie. Encore une fois, nous ne pouvons trouver notre chemin dans l'Écriture qu'en y cherchant Dieu, en y cherchant Christ, et il nous y attend. Alors pour conclure, je vais encore prendre un texte de l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains. C'est au chapitre 11 de Romains, à partir du verset 25. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera Jacob des impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même maintenant ils ont désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée de Dieu, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On voit ici Paul malheureux. Malheureux parce que son peuple, Israël, ne reçoit pas l'Évangile. Il s'interroge douloureusement. Ne s'est-il pas trompé depuis le début? L'échec de l'évangélisation de ses frères n'est-il pas la preuve de son erreur? Il va trouver les réponses dans la méditation. Il a cherché les réponses dans ce qu'il appelle le mystère. C'est un point difficile, c'est un mystère. Il ne comprend pas, pas tout, mais il comprend assez pour continuer avec confiance. Il comprend que c'est Dieu qui conduit toutes choses, qu'il poursuit l'accomplissement de son plan. Il le poursuit à travers un reste fidèle, parce qu'il a compassion de tous. Incontestablement, Dieu conduit l'histoire du monde. Il a un plan, mais il appelle chacun à entrer dans ce plan d'amour. Nous voici acteurs potentiels d'une histoire qui nous dépasse largement. C'est pourquoi Paul nous exhorte à l'humilité. Ne nous croyons pas trop sages, trop sûrs de connaître la fin mot de l'histoire. Paul termine son chemin par son émerveillement. Émerveillement de la sagesse de Dieu, ébloui par sa lumière, bouleversé par son immensité. Et tout ça, il l'entrevoit, mais ça le dépasse largement. Ça nous dépasse aussi largement. C'est pourquoi il conclut, et je pense que nous conclurons avec lui, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. L'adoration, c'est l'aboutissement de la rencontre avec celui qui est le Tout-Puissant et qui est notre Père. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.